Un homme avait deux fils. Peggy, Charles Peggy, a dans son, dans le porche de la deuxième vertu, il parle abondamment de cette parabole de la miséricorde, d'une manière qui nous touche, qui est capable de toucher tout homme, et il montre comment elle nous touche. Voilà ce qu'il dit. De toutes les paroles de Dieu, c'est celle qui a éveillé l'écho le plus profond. C'est la seule que le pécheur n'a jamais fait taire dans son cœur. Ainsi, elle accompagne l'homme dans ses plus grands débordements. C'est elle qui enseigne que tout n'est pas perdu. Il est un trésor de Dieu quand le pécheur s'éloigne dans les ténèbres grandissantes, quand les ténèbres croissantes voilent ses yeux. Il est un trésor de Dieu qu'il ne jettera point aux ronces de la route. Cette parole, c'est un trésor qui accompagne. Les autres paroles de Dieu n'osent pas accompagner l'homme dans ses plus grands débordements, mais en vérité, celle-ci est une dévergondée. Elle tient l'homme au cœur en un point qu'elle sait et ne lâche pas. Et il appelle cette parabole, que nous appelons la parabole de la miséricorde, il l'appelle la parabole de l'espérance. Nous aimons, et nous avons appris pendant toute une année avec l'année de la miséricorde, il y a peu, couronnée par et alimentée par l'encyclique du pape François, nous aimons nous identifier à la brebis perdue ou au fils perdu et retrouvé, tel qu'il est représenté par Rembrandt, accueilli dans les bras et sur le sein de cet homme maternellement paternel. Mais à y regarder de plus près, ce n'est pas d'abord ce que le texte veut nous dire. Bien sûr, toute la prédication, tout l'être de Jésus est miséricorde. Mais dans ce texte, c'est juste un faire-valoir, le fils prodigue. Dans les trois paraboles, la pointe, l'enseignement, comme la pointe, comme disent les exégètes, c'est la joie. La joie partagée par tous. Pas seulement par le bénéficiaire de la miséricorde, mais par tous. Et ce que Jésus est en train de faire, c'est qu'il parle aux pharisiens et aux scribes. Il parle aux gens bien suivant la religion, aux gens qui ont des principes, qui suivent les normes, qui essayent, non pas simplement des gens qui se pensent impeccables, parce que eux aussi, quelque part, ils sentent qu'ils ont besoin de miséricorde, parce que la loi, avec ses 613 préceptes, on ne peut pas l'accomplir pleinement, et il reste toujours dans le cœur de l'homme un peu de culpabilité. Alors il y a des sacrifices à faire, des moments de jeûne pour pouvoir se représenter devant Dieu. Mais Jésus veut aller plus loin. Alors que Jésus mange avec les pécheurs, les autres sont là récriminants, alors qu'il faudrait se réjouir. Que nous ne perdions pas de vue cette leçon de l'Évangile. On le voit bien, comme je viens de le rappeler, le commencement de l'Évangile, alors que Jésus mange avec les pécheurs et que c'est toute l'assistance qu'il écoute, c'est les pauvres et les pécheurs, les autres récriminent. Et puis la fin de cette histoire, elle est ouverte. C'est parce que Jésus veut construire l'Église, il veut ramener tous dans le troupeau. Et la fin, elle est ouverte. On ne sait pas ce que le Fils finalement va faire. Et nous sommes invités à nous poser la question aussi, qu'allons-nous faire? C'est donc un appel aux gens de bien, non à se contenter de sa propre bonté, mais ne pas simplement être, comme on avait déjà avant dans le contexte, le chapitre précédent, à essayer de gagner sa place, à essayer de tirer le meilleur parti, voilà. Mais pour Jésus, ce qui est au centre, il nous l'a enseigné au chapitre 14 sur comment inviter les gens à un festin, non pas ceux à qui vont te rendre, mais à celui qui justement ne peuvent pas te rendre. Eh bien, pour Jésus, au centre de l'Église, au centre de l'Évangile, au centre de l'humanité, il y a le pauvre, le pécheur. Auprès de qui il faut courir, chercher, se laisser émouvoir, pour reprendre les termes des trois paraboles qui nous ont été données, afin de saisir, de comprendre le cœur et le moindre désir de retour au Seigneur et de le favoriser, non pas pour que l'autre rentre dans nos pensées, mais pour qu'il puisse rentrer dans la vie. À regarder de près cet homme qui avait deux fils et l'histoire qui en découle, tout apparemment sépare ce bon fils qui est resté à la maison et exploite la propriété du père et cet aventurier, ce raté qui a cassé la baraque, qui a jeté à son père « Tu es mort pour moi ». Et au fond, il ne se distingue pas tant que ça. Regardons d'un peu plus près. Le fils cadet, il veut être autonome, il s'en va, mais pas fils. Et le fils aîné, lui, il se comporte finalement en mercenaire, en serviteur, en esclave, mais pas en fils. Il traite son père comme un employeur. Il fait tout pour gagner sa vie, mais faisons attention, gagner sa vie, ce n'est pas simplement gagner de l'argent. Il ne faut pas confondre les deux, parce que le père qui est la vie, il est la vie qui se donne tout entier, et il nous apprend qu'elle est échange. Le cadet, lui au moins, il a l'expérience du don, il a donné toute sa fortune. L'aîné, pour lui, tout lui est dû. Et il n'a pas compris que la fête était aussi pour lui. L'aîné reproche au cadet ce qu'en fait il fait. Le cadet quitte la maison et l'autre refuse d'y rentrer. Le cadet revendique l'héritage et l'aîné dit « Le veau gras, c'est pas pour lui ». Les rôles s'inversent. Le cadet redevient fils alors que l'aîné montre qu'il ne l'a jamais été. L'aîné s'exclut du don de son père. Aussi, nous sommes invités à apprendre, à non seulement recevoir la miséricorde, mais à la donner, à devenir nous-mêmes miséricorde. C'est bien ce que nous montre Paul quand il parle de justement cette miséricorde, d'abord qui nous apprend à ne pas désespérer du pécheur, puisque lui-même se présente comme le plus grand des pécheurs, le premier des pécheurs, mais il lui a été fait miséricorde. Et quand nous désespérons, n'avons-nous pas à nous mettre en route comme le berger ou comme la femme, avec un grand soin d'aller chercher, d'approcher, de ne pas faire peur à la brebis qui s'en va encore plus loin, mais de pouvoir l'approcher. Et il y a ces moyens que nous voyons bien dans la conversion de Paul, puisque les actes des apôtres le rapprochent spécialement à la prière et au sacrifice d'Étienne, à la prière d'Étienne et aussi au don de sa vie. Nous sommes invités ainsi à donner notre vie. Nous sommes invités non comme les gens de bien, ces pharisiens et ces scribes, eh bien, à défendre ce qu'ils veulent sauver. Et on a, de manière heureuse, dans la première lecture, eh bien, ce passage où de l'idolâtrie par excellence, le peuple qui s'est donné, qui s'est représenté Dieu, oh, certes, d'une manière juste, la force, un jeune taureau, mais... Et ils défendent ce Dieu, ils le font, ils le matérialisent, mais Moïse ne l'entend pas. Et il a ce sens que c'est le grand péché, c'est la grande division. Parce que la vie de Dieu, elle n'est pas à défendre, ce n'est pas les valeurs qu'il faut défendre, mais c'est ce courant de vie qu'il faut faire passer. C'est apprendre à aimer les pauvres, à aimer les pécheurs, à les faire, à partager, à donner sa vie, afin qu'ils puissent tourner les yeux vers le Seigneur, se tourner vers lui et recevoir la vie en plénitude. Demandons au Seigneur de devenir nous-mêmes miséricordieux et de savoir nous réjouir d'être invité à servir les pauvres, à partager et à inviter les pécheurs au festin du Seigneur.